Et ça ne vous a pas échappé, Catherine, en cette rentrée. Un terme a fait son apparition dans le discours politique, un terme, le mot « réel », par exemple, chez Emmanuel Macron ce dimanche.
Il y a aujourd'hui une gauche du réel qui veut que les choses changent, qui veut justement être fidèle à ces valeurs auxquelles j'adhère dans la mondialisation. Et il y a une gauche statutaire conservatrice. Donc vous êtes... Je suis de cette gauche du réel, du réel.
Mais Emmanuel Macron n'a pas le monopole du réel. C'est pas moi qui le dis, mais le Premier ministre Manuel Valls, hier sur RTL.
Emmanuel Macron, il parle de la gauche du réel, de la gauche sociale réformiste qu'il veut incarner. Mais cette gauche du réel, cette gauche sociale réformiste, cette gauche qui assume les responsabilités dans l'exercice du pouvoir, c'est moi, c'est moi.
Eh bien, France Culture est heureuse de vous offrir 30 secondes de réel.
Tu sais que c'est réel, quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies, les peines qui s'affrontent dans nos villes. Tu sais que c'est réel, quand tu sors la tête de l'écran, tu vibres et tu vis vraiment. Le réveil est impossible dans ce monde utopique, ça en devient presque hilarant. Tu sais pertinemment que tu trompes mais tu t'obstines. Cette merde est abstraite, le succès est éphémère. C'est la fin, il faut que tu t'apprêtes mais tu préfères laisser faire. À force de tromper, de s'initier.
Un extrait de Réel par 1995. Et l'homme qui a le monopole du réel, figurez-vous qu'il est dans ce studio, c'est le physicien Étienne Klein. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour Guillaume Herner.
Le réel chez vous c'est quoi?
C'est ce qu'on cherche. Je pense que les physiciens sont à la recherche du réel, ils se posent à son sujet les bonnes questions, c'est-à-dire notamment celle du lien qu'il y a entre la représentation que l'on se fait du réel et le réel lui-même.
Vous auriez une définition du réel à nous donner ?
Je respecte beaucoup le réel, mais je n'y ai jamais cru. Ça, c'est une citation de Valère Novarina.
Une citation poétique. En tout cas, et en matière de poésie, il y en a eu beaucoup depuis quelques mois en physique, dans votre discipline, Étienne Klein, notamment en matière d'ondes gravitationnelles.
Oui. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles.
Une conférence de presse diffusée aux quatre coins de la planète, dont Albert Einstein aurait rêvé. Les ondes gravitationnelles, c'est lui qui les avait prédites. 100 ans après, d'autres ont réussi à les observer.
C'est la première fois que l'univers nous parle à travers ces ondes gravitationnelles. Jusqu'ici, nous étions comme sourds, mais aujourd'hui, nous sommes capables de les entendre.
Le réel pour nous qui ne sommes pas politiques, Étienne Klein, c'est ce qui nous résiste. Et figurez-vous que les ondes gravitationnelles, ce n'est pas très clair pour moi. Déjà, la gravitation, je dois vous faire un aveu, je n'ai jamais bien compris ce que c'était.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, parce que c'est en effet pas clair. Il y a ce qu'on apprend à l'école, c'est la théorie de Newton de la gravitation. Elle serait une force qui s'exerce au travers de l'espace entre les objets. Elle est toujours attractive. Elle diminue avec la distance assez rapidement. Et elle s'exerce dans l'espace de façon instantanée. C'est-à-dire, dès qu'on met deux masses en présence, aussitôt une force attractive apparaît. Et Einstein, au terme d'un processus qui a duré plus de 10 ans, a remis en cause cette conception. Il a publié en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, pour laquelle la gravitation n'est plus une force. C'est-à-dire que les objets qui subissent la gravitation, en fait, sont libres. Ils ne subissent pas de force. La gravitation s'inscrit dans l'espace-temps en déformant. Et donc les trajectoires des objets sont déformées, alors qu'ils ne subissent pas de force, par la courbure de l'espace, de l'espace-temps. Et alors, ça peut être très compliqué d'un point de vue mathématique, mais l'idée de base, Einstein l'a eue en 1907, dans une sorte d'expérience de pensée, dont il dira plus tard qu'elle a été l'idée la plus heureuse de sa vie. Mm-hmm. Il était assis à son bureau, il rêvassait, et il a compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Ce qui est une phrase étonnante, parce que quand vous tombez, c'est sous l'effet de votre poids, donc le poids est la cause de votre chute. Mais en même temps, pendant que vous tombez, tous les objets qui tombent avec vous, par exemple votre chapeau, vos lunettes, tombent comme vous, puisque tous les corps tombent à la même vitesse.
Et c'est cette intuition.
Et donc par rapport à vous, ils sont en apesanteur. Donc l'accélération provoquée par la chute annule la gravité qui cause la chute.
Et c'est cette intuition, Étienne Klein, qui l'a incité à remettre en cause une théorie qui était universellement admise auparavant.
Absolument, mais c'est pas une intuition en fait, c'est simplement une lecture des équations de Newton qui dans laquelle il a mis en scène son propre corps, c'est une sorte de pensée musculaire qui l'a amené à ce qu'il a appelé le principe d'équivalence, équivalence entre l'accélération et la gravitation. Et cette idée va cheminer en son esprit pendant plusieurs années, notamment pendant les mois qu'il va passer à Prague, où il va comprendre qu'elle implique que la lumière, bien qu'elle n'ait pas de masse, soit dévié par la gravitation, et il va formaliser cela mathématiquement avec l'aide d'amis mathématiciens jusqu'à trouver les bonnes équations en novembre 1915.
C'est étrange quand même de se dire que chez Einstein, l'intuition, lorsqu'il dit par exemple que Dieu ne joue pas au dé pour rejeter la physique quantique, là c'était une mauvaise intuition. Vous citiez tout à l'heure une phrase de poésie, ce qui signifie que la poésie peut inspirer un physicien comme vous.
Enfin, il y a une poésie einsteinienne. Einstein n'était pas un poète, hein. Bien qu'il écrit quelques poèmes, notamment sur le vélo, pas sur le cyclisme. Mais il n'était pas un poète, donc, mais il y a une poésie einsteinienne, c'est-à-dire une espèce de jeu dialectique entre le réel et l'imagination, par le biais d'expériences de pensée dans lesquelles il imagine des situations qu'on ne peut pas voir, mais au sein desquelles il essaie de voir ce qu'impliqueraient les théories physiques si on les prenait au sérieux.
Donc le dit Einstein décide de remettre en cause la théorie de la gravitation. En quoi les ondes gravitationnelles s'inscrivent dans cette remise en cause ?
Donc il publie ses équations en 1915 et un an plus tard, il commence à se demander s'il n'y aurait pas, comme solution de ces équations, des ondes gravitationnelles. On sait tous que surtout à la radio, quand on accélère une charge électrique, elle émet des ondes électromagnétiques. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que quand on accélère une masse, elle n'émettrait pas des ondes gravitationnelles qui sont non pas des ondes qui se propagent dans l'espace-temps, mais des ondes qui modifient l'espace-temps à leur passage. Et il a hésité, il s'est contredit, il s'est trompé dans ses calculs, enfin c'est toute une longue histoire, mais il était persuadé à la fin que ces ondes existent, mais qu'elles seraient indétectables. Tellement la gravité est faible et tellement les signaux que cela engendre sont difficiles à capter. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un siècle plus tard, on les a détectés grâce à un processus extrêmement violent qui est la fusion de deux trous noirs qui s'est produite il y a 1,3 milliard d'années. Donc il faut imaginer que deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires ont fusionné, ont perdu beaucoup de masse dans l'opération, trois masses solaires, et donc l'énergie correspondant à trois masses solaires, E égale MC2. Je vous rappelle que Hiroshima, c'est un gramme de matière qui devient de l'énergie. Là, c'est trois masses solaires qui deviennent de l'énergie, qui vont déformer l'espace-temps. Ces ondes se propagent, évidemment s'affaiblissent à mesure qu'elles se propagent, et elles traversent la Terre le 15 septembre 2015, à 9h45.
Comment a-t-on mesuré les conséquences donc, de cette collision de deux trous noirs, Étienne Klein ?
Eh ben justement, les trous noirs, on les a jamais vus. Il y a même des gens qui doutaient de leur existence. Einstein lui-même n'y croyait pas. Et donc c'est extraordinaire qu'on ait détecté des ondes auxquelles Einstein croyait, mais dont il pensait qu'on pourrait pas les détecter, grâce à la fusion de deux objets auxquels il ne croyait pas. Eh bien, c'est la simulation, c'est le calcul, plutôt le calcul. Les gens, notamment Thibaut Damour, un physicien français que vous connaissez bien, avaient calculé la forme que doivent avoir ces ondes si elles émanent de la coalescence de la fusion de deux trous noirs. Et le signal mesuré, grâce à un interféromètre avec des lasers installés aux États-Unis, correspond exactement à la courbe théorique. Vous parliez du réel tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire qu'on arrive à mesurer exactement quelque chose qui a été calculé grâce à une théorie qui a été élaborée il y a un siècle.
Ce qui veut dire que finalement, physique... vous avez eu la vérification de ce que oui. Einstein avait théorisé avec du papier et un crayon.
C'est une confirmation directe de l'existence des ondes gravitationnelles. Ça veut dire que la physique agit comme un, pour appeler ça un treuil ontologique, c'est-à-dire qu'elle permet de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques.
Bon, d'un côté, les vertus prédictives d'une discipline scientifique, celles-ci sont en quelque sorte constitutives de l'existence même d'une discipline
oui,
scientifique.
Oui, sauf que là, c'est des nouvelles sortes d'objets. On ne prédit pas un objet de plus. Par exemple, au XIXe siècle, on a prédit l'existence de la planète Neptune à partir de l'observation du mouvement d'autres planètes, notamment Uranus. Donc on prédit un objet de plus dans une catégorie d'objets qui est déjà identifiée. Là, c'est une nouvelle sorte d'objet.
On reparlera des objets célestes tout à l'heure après 8h15, Étienne Klein en compagnie de Jean-Pierre Bibring. Mais en ce moment, pour comprendre ce que cette découverte implique, ce que cette découverte des ondes gravitationnelles, on a appris à l'école par exemple que le fait que la lumière ait en partie une existence sous forme d'onde se prouvait par exemple lorsque on fait une petite expérience qui consiste à mettre deux sources lumineuses pour que celles-ci s'annulent. Est-ce que cela veut dire, je vais vous faire crier, est-ce que cela veut dire par exemple que cette gravitation, elle fonctionne, deux corps s'attirent, se repoussent parce qu'il existe des ondes entre eux ?
Bah, disons que si on veut faire une lecture quantique, comme on dit, de la gravitation, il faut imaginer que...
Quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit?
Oui, enfin, c'est la physique de l'infiniment petit. Il faut imaginer qu'il y a une sorte de médiation, évidemment, entre les corps. Mais moi, j'aime pas trop l'emphase, mais en l'occurrence, c'est difficile de résister. Les ondes gravitationnelles sont des signaux nouveaux qui nous apportent des informations sur l'univers. On a comparé cela à la lunette de Galilée, mais Galilée, il a évidemment découvert beaucoup de choses, mais grâce à un vecteur qui était le même qu'avant, à savoir la lumière. Il a simplement utilisé une lunette qui lui a donné un grossissement pas très important de 6 ou 7. Là, c'est une nouvelle sorte de signal, et le point important, c'est que les ondes gravitationnelles ne sont pas déformées par la matière qu'elles traversent. Autrement dit, leur structure contient la signature exacte des objets qui les a émises. Et pour ça qu'on a pu dire que celles qui ont été détectées au mois de septembre 2015 correspondent à la fusion de trous noirs. On sait d'où elles viennent et on sait comment sont les objets qui les émettent. Et donc on va pouvoir découvrir des objets invisibles par la lumière.
On écoute la voix d'un homme qui vous est cher, auquel vous consacrez un ouvrage qui paraîtra le 19 octobre prochain, Étienne Klein, la voix d'Albert Einstein.
Civilized man has a feeling of superiority toward primitive man. He considers himself, so to speak,
Albert Einstein mettant en cause le sentiment de supériorité chez nos contemporains, supériorité qui les rendrait en quelque sorte plus humains que les primitifs. Il y avait chez Einstein un humanisme, il y a chez Einstein, dites-vous, Étienne Klein, une sorte de préscience. Est-ce que cela signifie que la physique, votre discipline, Étienne Klein, vit en quelque sorte des découvertes faites par Einstein? On est encore dans cette phase où finalement, travailler dans un labo en physique, cela signifie vérifier ce qu'Einstein avait prévu?
Ben, en grande partie, oui. Je pense qu'Einstein, il a lancé la physique du XXe siècle, pas tout seul. Mais si vous regardez les publications qu'il a produites en 1905... En 6 mois d'intervalle, alors qu'il n'avait pas de poste à l'université, il était ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, il n'avait pas de poste, pas de thèse d'ailleurs à l'époque. Il a écrit 5 papiers dont les conséquences sont au cœur de la physique d'aujourd'hui. Par exemple, il a écrit un papier en mars 1905 dans lequel il prend au sérieux les quantas de lumière qui avaient été envisagés par Planck avec beaucoup de réticence. Lui, il les prend au sérieux, en tire les conséquences, se rend compte que ça remet en cause la nature de la lumière telle qu'on la comprend à l'époque, et ça ouvre la porte à ce que vous appeliez tout à l'heure, à juste titre, la physique quantique, qui est en gros la physique d'aujourd'hui, même si, et là on retrouve Einstein, la physique d'aujourd'hui elle est dans une sorte de schizophrénie, elle a 2 piliers qui sont pas conciliés encore, qui le sont peut-être un jour, j'en sais rien, mais il y a la physique quantique qui est la physique des particules, si vous voulez, et puis il y a la gravitation, la relativité générale, qui est une théorie complètement différente, qui fonctionne dans un espace-temps différent, et on n'arrive pas à réconcilier ces 2 socles de la physique.
Et la physique quantique, en tout cas la physique des particules, on peut dire qu'elle vous a conduit à passer un très mauvais été avec les autres physiciens, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'une particule, nommée la particule X, qu'on était en train de traquer, qu'on pensait avoir touché du doigt, excusez cette image de profane, eh bien cette particule X tout simplement n'existait pas. Pour comprendre en quoi cette particule X était un enjeu crucial pour les physiciens, il faut tout d'abord revenir au boson de Higgs.
Oui, enfin toutes les particules qui sont prédites par ce qu'on appelle le modèle standard. Le modèle standard, c'est la théorie quantique qui décrit 3 des 4 interactions fondamentales. Les 2 interactions nucléaires et l'interaction électromagnétique. Toutes les particules prédites par ce modèle standard ont été découvertes. La dernière en date étant le boson de Higgs, découvert en 2012. Ce qui veut dire que...
Alors ce boson de Higgs qu'on appelait la particule de Dieu, quelles sont ses caractéristiques?
C'est une particule qui en fait est à l'origine, par le champ quantique qui lui est associé, de la masse des autres particules. Mais ça veut dire que toute nouvelle...
Une particule élémentaire, pardonnez là aussi cette question profane.
Ça veut dire qu'on ne lui connaît pas de structure composite, elle n'a pas à l'intérieur d'elle-même d'autres objets qui la constitueraient. Maintenant, ça veut dire que toute nouvelle particule qui serait découverte serait une particule nouvelle par rapport au modèle standard. Et comme on sait que le modèle standard n'est pas complet parce qu'il ne tient pas compte de la gravitation, ce serait une information très importante sur la façon d'unifier les interactions pour avoir un modèle unique permettant de décrire les 4 interactions. Et en effet, il y a quelques mois, on a vu, grâce au LHC, les 2 expériences...
C'est le collisionneur de
du CERN, une grosse machine de 27 km de circonférence, qui crée des collisions entre protons, et il y a 2 grands détecteurs, CMS et ATLAS, qui ont vu à la même masse, 750 GeV, un GeV, c'est en gros la masse d'un proton, donc c'est une particule très massive. Les deux détecteurs voient au même endroit un petit sursaut d'événement qui laisse entendre qu'il s'agit d'une nouvelle particule. Évidemment, ça a excité beaucoup de monde. Vous savez, quand il y a un signal, on ne sait pas si c'est du bruit de fond, une fluctuation statistique, ou si c'est un vrai, vrai signal, une vraie particule. Donc, il faut faire des analyses, il faut avoir des données, il faut faire fonctionner la machine plus longtemps pour accumuler des données qu'on peut mettre dans la statistique. Et la probabilité que cette particule existe a augmenté au cours du temps. Et puis finalement, il a été annoncé au mois d'août que c'était des fluctuations. Et donc cette particule n'existe pas.
Alors que vous étiez quasiment certain qu'elle existait.
Oui, il y avait une probabilité très forte, mais on sait ce que c'est les probabilités. Hein. C'est jamais une garantie tant qu'elles ne valent pas 100%. Et simplement, les choses qui n'existent pas, n'existent pas pour rien. C'est-à-dire, le fait de savoir que cette particule n'existe pas, c'est une connaissance.
Justement, en quoi le fait de savoir qu'il n'y a pas de particule X, Étienne Klein, qu'est-ce que ça vous permet de penser en matière de physique?
Ça veut dire que le modèle standard, pour l'instant, n'est pas démenti par les faits, par le réel, et qu'il faut continuer à faire des recherches. Heureusement, le LHC, cette machine, fonctionne comme un coucou suisse, avec une luminosité, c'est-à-dire un nombre d'interactions par seconde qui est plus élevé que celui qui était prévu lors de la conception de la machine. Ça veut dire que cette machine, oui, fonctionne à plein régime, et que s'il y a des choses à trouver dans ce secteur d'énergie, elle les trouvera.
Est-ce que finalement, vous, scientifique, vous n'êtes pas un peu sous pression des médias, sous pression d'un rythme qui n'est peut-être pas le vôtre, puisque cette particule X, elle était attendue comme le passage du peloton du Tour de France, et finalement, ça n'est peut-être pas un bon service à vous rendre?
Je sais pas, je pense qu'il y a une pression en effet, puisque ces machines coûtent cher, il faut montrer qu'il y a des découvertes possibles grâce à elles, mais en même temps, la physique a le souci du réel, donc on ne va pas inventer des particules qui n'existent pas. Et le réel, en l'occurrence, nous a dit, à cette valeur de masse, 750 GeV, il n'y a pas de particules. D'une certaine façon, c'était une découverte négative. Évidemment, on aurait aimé avoir une découverte qui nous donne des signaux sur la bonne façon de progresser théoriquement au-delà du modèle standard.
Si
ça sera pour la prochaine fois.
Justement, si le modèle standard est corroboré par l'inexistence de cette particule X, ça peut sembler paradoxal, mais vous l'avez expliqué tout à l'heure, est-ce que cela signifie que nous n'avons plus de découverte à faire aujourd'hui sur la nature du réel, en tout cas de la matière?
Pas du tout, parce que les découvertes qu'on peut faire dépendent de l'énergie qu'on met dans les collisions. Donc plus il y a d'énergie, plus on est capable de voir des particules massives. E égale mc2, hein. Plus l'énergie mise en jeu dans la collision est importante, plus les masses qu'on peut créer sont elles-mêmes importantes. Et donc, cette machine va fonctionner encore pendant des années, et donc il faut laisser sa chance au réel pour nous montrer que dans cette zone-là, il y a du grain à moudre.
Le réel, c'était également tout autre chose. Vous êtes chercheur au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, Étienne Klein, et cet été, on a beaucoup parlé de déchets nucléaires. On en a parlé notamment avec le site d'enfouissement de Bure. Quelle analyse avez-vous dans le fait d'enfouir des déchets nucléaires sur un site tel que Bure?
On assiste à un débat entre ceux qui sont pour et contre le nucléaire, et à mon avis, ce débat-là est complètement déplacé, parce que le nucléaire existe. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Est-ce qu'on crée des nouveaux réacteurs d'un nouveau type, ou bien est-ce qu'on arrête? Et même si on arrête, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Et donc il y a des problèmes à résoudre, et qu'il faut résoudre sans partir d'a priori idéologique. Simplement, je pense que notre société est soumise à des questions d'un genre un peu nouveau, parce que la science produit des connaissances, on l'a dit, mais elle produit aussi de l'ignorance, mais de l'ignorance d'un type très spécial. D'ailleurs, Einstein l'avait évoqué dans une conférence qu'il a donnée à Princeton en 1939, il nous dit, finalement, la science nous donne la connaissance de ce qui est, mais elle ne nous donne pas la connaissance de ce qui doit être. C'est-à-dire, nous ne savons pas ce que nous devons faire de ce que nous pouvons faire, parmi les choses que la science nous permet de faire. Et donc, la question de l'énergie est une question qu'il faudrait débattre dans la société d'une façon qui aide à trouver des pistes acceptées par, sinon par tous, du moins par beaucoup, pour résoudre ces problèmes.
On vous retrouve à 8h15, Étienne Klein. Vous serez rejoint par Jean-Pierre Bibring, qui est astrophysicien, et on parlera des nouvelles des étoiles, avec notamment la sonde Rosetta, avec la comète Chury, avec également des histoires d'astéroïdes et d'exoplanètes qui ont marqué votre actualité cet été,